Bonsoir à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Et dans ce numéro de ce lundi 2 décembre, nous revenons sur les rencontres de la première journée de la phase de poule des Coupes africaines disputées en milieu de semaine dernière. Nous parlerons également de handball avec la CAN qui se joue en République démocratique du Congo, la CAN féminine bien sûr. Des blessures à répétition des joueurs et des notes de l'évaluation de la FIFA pour le dossier du Mondial 2030. Avec nous, comme d'habitude, Élisée Nkpatin depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba Ouédraogo et bienvenue au Bénin.
Merci. Jules Valentin Ngoué nous rejoint depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons bien évidemment Amdine Sia Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. La première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaines s'est déroulée en milieu de semaine dernière. Le champion en titre, Al Ahly, a tenu son rang au Caire, dominant le stade d'Abidjan 2-4. Dans la poule C, dans l'autre rencontre de ce groupe, les Algériens du CRB Louisdad sont tombés à domicile 1-2 devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Élisée Mpatin, je commence par vous. C'est quand même des débuts un peu logiques dans cette poule C.
Et bien évidemment, puisque le tenant du titre, c'est vrai, a connu un match très facile où il a fallu quelques 30 minutes pour infliger assez de buts à cette sélection, à cette équipe ivoirienne. C'est vrai que bon, quand on parle du stade malien, on se rappelle de ce premier club qui a remporté la première édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. C'est la Ligue des champions, appelée autrefois Coupe d'Afrique des clubs champions. Eh bien, c'est le stade malien qui a été le premier club qui a remporté cette compétition il y a très très longtemps, en 1965. Donc depuis, c'est un traversé de désert, donc il faut comprendre. Eh bien, les Égyptiens, très structurés, pratiquement le meilleur club du continent africain, eh bien ces Égyptiens se sont baladés devant les Ivoiriens sur ce score de 4-2. C'est vrai que en fin de rencontre, eh bien, les Ivoiriens ont montré de très belles choses. Vous avez dit, la logique a été respectée. On verra la seconde journée qui s'annonce encore décisive, hein, puisque il faut rattraper les points perdu lors de la première journée si on ne veut pas louper les quarts de finale.
Bien évidemment, dans la poule D, l'autre club égyptien, Pyramide FC d'Égypte, a écrasé, on va le dire comme ça, les Angolais de Sagrada Esperança, 5-1, pendant que l'Espérance de Tunis a laminé Djoliba AC 4-0. Amdine Sy, ces scores fleuves sont quand même révélateurs, hein, des formes du moment dans cette poule.
Oui, tout à fait, tout à fait. Si on regarde ces deux matchs, Pyramide qui se promène, hein, face à Sagrada et Espérance de Tunis qui lamine carrément les Maliens de Djoliba, cela veut dire ce que cela veut dire, parce que ces équipes ont été très, 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 très puissantes face à leurs adversaires. En tout cas, cela démontre que cette première journée nous montre que les attaquants africains sont en forme et ils feront tout pour que le spectacle soit en place. En tout cas, c'est un excellent début pour les Égyptiens et les Tunisiens qui ont vraiment laminé ces deux équipes. Maintenant, ces deux équipes n'ont plus le choix. Ils doivent se reprendre lors de la deuxième journée, puisque perdre sur des scores de moins 4, c'est pas bon pour un début, Yacouba.
Et dans le groupe A, les Congolais du tout-puissant Mazembe ont fait match nul 0-0 avec le MC Alger. Défaite par contre des Tanzaniens de Young Africans 0-2 face à Al Hilal. Jules, c'est un début à petit trot pour les Congolais du TP Mazembe.
Oui, mais ils nous ont habitués à un tel parcours généralement. Les Congolais assurent d'abord en défense et ils font jouer le bloc, sont très prudents et généralement ils se libèrent quand la compétition est relativement plus avancée. Là, l'essentiel était d'abord de rentrer dans la compétition, même si les calculs vont venir par la suite selon les circonstances et selon les adversaires.
On attendra bien sûr de voir. On va rappeler juste que les Congolaises du tout puissant Mazembe en Ligue des Champions féminines ont remporté justement la Ligue des Champions cette année. Dans la poule B, il y a eu un choc fracticide entre deux clubs marocains, le Raja Casablanca et Far Rabat. Victoire du club des militaires 0-2 au grand bonheur de son entraîneur Hubert Velut.
On a géré la première mi-temps d'une bonne façon, un jeu en transition intéressant, peut-être même une ou deux fois encore peut-être plus performant. Et la deuxième mi-temps a été bien maîtrisée, même si le Raja a bien réagi en deuxième mi-temps. Mais par contre, je trouve qu'on a bien maîtrisé le match, notamment en fin de match, on ne s'est jamais affolé, on a pu gérer, malgré quelques soucis aussi de blessures, comment dire, notamment chez nos défenseurs, mais on a su quand même gérer le match.
Hubert Velut, entraîneur de Far de Rabat, au micro d'Amin Birouk que nous retrouvons. Amin Birouk, c'était un choc à ne pas manquer. Dites-nous, est-ce que cette rencontre-là a tenu toutes ses promesses? On va le rappeler, c'était le match au sommet de la poule A.
Tout à fait, c'était le premier affrontement sur le plan historique entre deux clubs marocains en phase de groupe de la Champions League. Et pour cette première, les deux équipes ont mis des petits plats dans les grands. On a eu du droit à de l'intensité, à des duels, à des occasions avec un Raja qui restait sur une série de 7 matchs sans victoire et qui avait faim. Une équipe de la SFAR qui n'a jamais tremblé avec un excellent gardien de but, Khiati, qui a tout arrêté, y compris un pénalty de Bougrine, alors que les militaires avaient pris les devants à la 44e minute suite à une bourde et un contre-rendement mené par Ahmed Hamoudan. En deuxième mi-temps, comme je vous le disais, le Raja a poussé, il y a eu une barre transversale pour les Verts et Blancs, champion du Maroc en titre. Il y a eu donc ce pénalty raté par l'ex-joueur de l'Espérance de Tunis, Saber Bougrine, arrêté par Ayoub Khiati. Puis en toute fin de match, un deuxième coup de poignard en faveur de l'équipe des Phares qui a inscrit un deuxième but, synonyme de victoire, de 3 points et de leadership dans le groupe, puisque dans la même journée, Mamelodi Sundowns a été tenu en échec 0-0 par l'équipe de Maniema, ce qui veut dire que l'AS Phare a une opportunité plus unique que rare de prendre les devants dès ce samedi devant son public, El Jadida contre Mamelodi Sundowns, alors que le Raja devra reprendre quelques couleurs lors d'un déplacement qui s'annonce très périlleux au Stade des Martyrs à Kinshasa face à la surprenante équipe de Maniema.
Justement, Jules, Amine l'évoquait tout à l'heure, 0-0 entre Maniema Union et le club sud-africain du Mamelodi Sundowns. Pour les Congolais, Jules, on le dira, hein, c'est un bon déplacement qui a été fait.
Oui, bien sûr, c'est un bon déplacement, mais ce n'est pas une surprise, parce que dans les tours précédents, ils ont surpris tout le monde en écartant des équipes qui paraissaient plus, disons, plus relevées. Et donc, il faut tenir compte de leur nouveau standing actuellement. Et donc, ils sont partis, ils sont pas partis la fleur au fusil, mais ils savent qu'ils sont avec des équipes qui sont, en fait, qui ont un vécu. Et donc, eux, ils viennent en outsider. C'est souvent une situation beaucoup plus, disons, plus positive et qui vous donne moins de pression pendant les matchs.
On jouait également la première journée en Coupe CAF, début réussi pour les tenants du titre, les autres Égyptiens du Zamalek, vainqueurs 2-0 face au Black Bull FC du Mozambique dans le groupe D. Amdine, là encore, c'est du logique, simplement.
Oui, c'est du logique si on regarde ce qui se passe dans ce groupe B, puisque, comme vous l'avez dit, hein, Berkane qui s'impose 2-0, le Stade malien qui s'impose, je pense que c'est logique pour le moment, puisqu'on vient de démarrer la compétition et ce sont les favoris qui s'imposent facilement.
Dans l'autre rencontre, Al Masry FC s'est imposé 2-0 face à Enyimba FC. De leur côté, les champions de l'édition 2021-2022, la Renaissance sportive de Berkane, faisaient face, disons, au club Desportivo de Luanda d'Angola. Donc, Amine, arrivé, Berkane 2-0.
Logique sur le papier, logique sur le rectangle vert, une équipe de Berkane qui, sans être très génial, est très solide cette saison. Les leaders avec près de 7 points d'avance dans le championnat marocain. L'entraîneur tunisien Moïse Chabani s'est même permis le luxe d'un turnover. Ça n'a pas altéré la machine qui est bien huilée. de Issoufou-Dayo, encore une fois, au Fourillon Moulin, on fait la différence. C'est le deuxième buteur historique dans cette équipe de Berkane en Coupe de la CAF. Il en est à 11 réalisations, le Burkinabé, capitaine de cette équipe qui a su mener ses troupes vers une victoire, 3 points mérités. Essai a transformé dès cette semaine, dès ce week-end, lors d'un déplacement face à l'inconnu sud-africaine, l'équipe de Stellenbosch.
L'équipe de Stellenbosch, justement, qui a été battue 2-0 par le Stade malien. Amdinsi, le Stade malien qui sauve un tout petit peu peut-être l'honneur du Djoliba AC tombé en Ligue des Champions.
Ah oui, le Stade malien qui s'est imposé en 2-0 face aux Sud-Africains. C'est vrai qu'ils ont sauvé l'honneur par rapport à ce qui s'était passé parce que le Djoliba a été laminé. Donc, cela prouve simplement que le football malien est sur la bonne voie. Ils sont en train quand même de faire un travail remarquable puisque, comme vous le savez, hein, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les clubs qui nous représentent n'arrivent pas tellement à briller lorsqu'il s'agit quand même des phases de poule, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Donc, quand une équipe comme le Stade malien parvient quand même à faire un bon résultat, il faut applaudir des deux mains et souhaiter que ça continue puisque les matchs de groupe, c'est un championnat. Il faut être régulier pour pouvoir quand même se qualifier et représenter dignement quand même l'Afrique de l'Ouest. Et les Maliens sont bien partis pour cela, Yacouba.
Le novice en phase de groupe Orapa United du Botswana a été battu 6-0 par l'USM Alger. Élisée Mpatin, apprentissage quand même amer pour les Botswanais.
Bien évidemment, il faut le dire, Amina Mbirou, puisque il faut le rappeler, c'est un groupe très difficile où on retrouve l'USM Alger avec ce club professionnel, la SEC d'Abidjan qui était quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions. N'oublions pas aussi les Sénégalais de Djaraf qui étaient quart de finaliste de cette Coupe de la Confédération l'année dernière. Donc, c'est un groupe très serré où les Botswanais doivent, en tout cas, miser gros surtout sur le match à domicile, puisque quand en Afrique, c'est pas souvent ce qu'on voit en Europe où les matchs peuvent se jouer n'importe où, mais en Afrique, quand on évolue à domicile, on a quand même 55% de chances de gagner ces matchs. Donc, ce club botswanais doit beaucoup miser sur ces matchs à domicile, puisque en face, comme je l'ai dit, il y a l'USM Alger qui a déjà 3 points. La SEC d'Abidjan qui a battu le Djaraf de Dakar et qui a aussi 3 points. Donc ça s'annonce un peu compliqué, mais sur le rectangle vert, tout est possible.
Et justement, Amdinsi, je reviens à vous, Élisée le disait, le duel ouest-africain du groupe C a été remporté par les Ivoiriens de la SEC Mimosa face à Djaraf de Dakar ou du Sénégal, c'est comme vous voulez, 2-0.
Oui, je vais dire que c'est une entrée ratée pour le Djaraf de Dakar qui s'est incliné sur le score de 2-0. C'est une contre-performance, il faut le dire comme ça. Mais si on regarde quand même le match, le Djaraf n'a pas démérité. Ils ont même fait jeu égal avec les Ivoiriens. En tout cas, c'est ce que démontrent les statistiques. Quand on voit du côté des tirs, le Djaraf en a 12 et les Ivoiriens 11. Si on regarde les tirs cadrés aussi, le Djaraf passe devant avec 3 tirs cadrés contre 2 pour les Ivoiriens. Si on regarde sur la possession, là, les Ivoiriens passent devant avec 56% contre 41% pour le Djaraf. Les passes également réussies, 434 pour les Ivoiriens et 459 pour le Djaraf. Mais ce qu'on retiendra, c'est la défaite. Les Sénégalais qui se sont inclinés sur le score de 2-0. Et maintenant, il faut essayer de tout faire quand même pour se reprendre, puisque pour le prochain match, comme vous le savez, le Djaraf va recevoir l'Usman d'Alger qui a balayé son adversaire par 6-0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Djaraf va vers un match extrêmement difficile et le Djaraf n'a pas droit à l'erreur. Élisée l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai qu'en 2021, le Djaraf a été quart de finaliste, mais cela arrive très rarement pour les représentants sénégalais de se qualifier, même en phase de poule, surtout se qualifier en demi-finale. C'est la Jeanne-d'Arc de Dakar qui avait réussi et cela, se qualifier en demi-finale, et cela date de très longtemps, c'était en 2004, pour vous dire comment les clubs sénégalais ont de sérieux problèmes pour pouvoir briller au niveau des phases de poule, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF, Yacouba.
Dans le groupe A justement de cette coupe CAF-là, Simba SC a battu FC Bravos 1-0, même score en faveur du CS Constantine d'Algérie devant les Tunisiens du CS Sfaxien. Toujours en football, mais hors des terrains, nous parlons des notes de l'évaluation de la FIFA pour le Mondial 2030. Si loin, si près, Amin Birouk, c'est avec vous.
C'est loin, c'est prêt, puisque le verdict, c'est mercredi prochain. Le 11 décembre, nous aurons la confirmation définitive que le Maroc, le Portugal, l'Espagne organiseront la Coupe du Monde 2030, que l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay organiseront les festivités du centenaire de la Coupe du Monde. C'est un formalisme auquel s'est attachée la FIFA avec des process, et parmi les process, la visite des fameux inspecteurs pour découvrir et faire découvrir les infrastructures, et pas seulement les stades, des trois pays. Donc les trois pays ont mis en lice 17 stades, des installations, des terrains d'entraînement, des fan zones, sans oublier bien évidemment les infrastructures aéroportuaires, hôtelières, les transports publics. Tout cela a été scruté de manière minutieuse, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un satisfecit général, puisque la note d'ensemble est de 4,2 sur 5. C'est la note la plus élevée des visites d'inspection, ex aequo avec le dossier de candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2034. Mieux encore, les stades marocains ont reçu une note assez satisfaisante. Le grand stade Hassan II qui est en chantier et l'égal du Santiago Bernabéu du Nou Camp, ils sont tous trois désignés pour abriter ou le match d'ouverture ou la finale. Et les cinq autres stades reçoivent une note entre 4,1 et 4. Devançons des stades aussi prestigieux que le José Alvalade de Lisbonne, la Rosaleda de Malaga, le stade de San Sébastien, de la Corogne ou de Saragosse, ce qui en dit long sur le travail, le sérieux, des autorités marocaines qui ont également offert toutes les garanties nécessaires sur le plan juridique pour que cette Coupe du Monde soit une réussite. Petite zone d'ombre peut-être, les transports en commun qu'il faudrait améliorer, l'hôtellerie grand public et non pas l'hôtellerie de luxe, mais nous avons 5 années pour pouvoir réussir cette prouesse et recevoir du mieux qu'on puisse la planète foot, les touristes qui viendront du monde entier pour encourager leurs équipes nationales. Mais attention, le verdict c'est le 11 décembre et ce sera l'occasion de célébrer en Afrique, de Tanger au Cap, la deuxième Coupe du Monde en terre africaine après celle qu'avait obtenue l'Afrique du Sud en 2010.
Et bien évidemment, on attend impatiemment en football toujours, on le voit fréquemment, les blessures à répétition des joueurs, soulevant toujours la question du calendrier. Jules Valentin Ngoué, la FIFA maintient ou crée même d'autres compétitions à l'image du prochain Mondial des clubs, élargi à 32 équipes désormais.
Oui, mais là, il faut dire que ce phénomène devient vraiment inquiétant. Inquiétant parce que les grandes équipes, les grosses cylindrées que nous avons, qui ont l'habitude de nous donner du bonheur, sont carrément émoussées dans la mesure où la meilleure et la nouvelle version de la Ligue des Champions est un championnat B qui se passe en même temps que le championnat national. Et on ne reconnaît plus totalement les Manchester City, les Bayern ou le PSG. Bon, les joueurs sont saturés et le fait que déjà que le type de blessure soit différent, le plus souvent on parle des fractures ou des ruptures de ligaments croisés, donc des chocs, mais cette fois-ci ce sont des blessures musculaires, des ischio-jambiers et qui sont synonymes tout simplement d'une surexploitation de la masse musculaire. Donc à ce rythme-là, ces gladiateurs des temps modernes ne risquent de se soulever d'un moment à l'autre, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils risquent de se soulever un peu à l'exemple de ce qui s'est passé dans l'Antiquité avec Spartacus et qui a en quelque sorte secoué le grand empire romain de 73 à 71 avant Jésus-Christ. Mais heureusement, l'environnement juridique actuel peut permettre quand même aux plus faibles de se battre.
Et justement, Amin Birouk, les joueurs se plaignent souvent du calendrier trop chargé, mais la FIFA, pour le moment en tout cas, semble faire la sourde oreille.
Elle fait la sourde oreille, elle maintient son super mondial des clubs. D'ailleurs, le tirage au sort aura lieu ce jeudi. Nous connaîtrons les adversaires qui vont, et je dirais les groupes de cette compétition. New Look à 32. Il est vrai que l'appât de l'argent fait fi des plaintes des différents spécialistes. Procès intentés par le syndicat des joueurs, la FIFPro, ou encore des réclamations manifestes des ligues nationales qui sentent que ces différentes compétitions sont en train de leur porter de l'ombre. Mais ce qui est certain, c'est que la FIFA n'en démord pas et elle continuera à surcharger le calendrier, tout comme l'UEFA. L'argent n'a pas d'odeur et l'argent a un objectif. Encore plus d'argent, toujours plus d'argent.
Voilà, encore plus d'argent, toujours plus d'argent. Nous parlons cette fois-ci de handball et nous prenons la direction de Kinshasa où la CAN féminine de cette compétition bat son plein Élysée. Fortune diverse, mais une certitude, le pays hôte, la République démocratique du Congo, est en quart de finale.
Bien évidemment, après avoir obtenu sa victoire hier contre la Guinée, vous imaginez, dans un stade archi plein où les Congolaises étaient véritablement supportées, puisqu'il fallait obtenir cette victoire, hein, donc c'était fait, où les Congolaises sont actuellement troisième du groupe dominé, sans surprise, par l'Angola qui a signé sa troisième victoire de suite en battant son concurrent direct, le Cameroun, et puis la quatrième place, puisque Yacouba Ouédraogo, il faut le dire, et ça va se jouer pour les quatre finales entre les quatre premiers de chaque groupe. Donc, il faut faire partie des quatre premiers pour assurer sa qualification pour les quarts de finale dans le groupe B que vous avez évoqué. On a déjà trois équipes qualifiées. L'Angola avec trois succès. Le Cameroun, la RD Congo. Maintenant, ça va se jouer entre la Tunisie et la Guinée. Donc, un dernier match où les deux équipes vont se disputer ce seul ticket à distance. Ça s'annonce donc... Et en tout cas, compliqué pour les Guinéennes qui sont classées actuellement cinquième. Dans la poule A, le Sénégal navigue seul dans ce groupe-là avec quatre succès d'affilée. Vous imaginez les Sénégalaises qui font office de favorites pour aller défier l'Angola pour ce titre-là. Donc les Sénégalais sont premiers dans ce groupe-là, suivi de l'Égypte et du Congo. Le dernier ticket va se jouer entre le Cap-Vert et bien sûr l'Algérie. Et demain, c'est la dernière journée des matchs de poule. On aura un duel à distance entre, bien évidemment, les Algériennes et les Cap-Verdiennes. L'Algérie joue le Kenya déjà éliminé avec zéro victoire pour le moment. Et puis, le Cap-Vert fera face à un gros morceau. Il s'agit de l'Égypte. Le dernier match mettra aux prises le Congo-Brazzaville au Sénégal, déjà assuré de terminer en tête dans ce groupe A.
Et justement, parlant du Sénégal, on ne peut pas ne pas recueillir son avis. Amdine Sy, le Sénégal, donc Élisée le disait, qui dominait la poule A avec quatre matchs en autant de sorties.
Oui, vous avez raison, hein, le Sénégal qui domine quand même ce groupe A de la tête et des épaules, car les Lions ont respectivement dominé le Kenya sur le score de 39-9, le Cap-Vert 37-22, l'Égypte 21-16 et enfin l'Algérie 23-16. Donc, comme Élisée l'a dit, le Sénégal est déjà qualifié alors que les Lions doivent jouer leur dernier match. Ce sera demain contre le Congo-Brazzaville. Donc, les Sénégalais sont sûrs et certains de jouer quand même les quarts de finale. Mais là n'est pas le problème, puisque le problème pour les Lions du Sénégal, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de l'histoire, comme l'ont fait les Lions du football en 2022 au Cameroun, puisque le Sénégal court derrière ce trophée depuis très longtemps, mais à chaque fois il y a une équipe qu'on appelle l'Angola qui se dresse devant cette belle équipe du Sénégal. Est-ce que cette équation sera résolue cette année? Wait and see. En tout cas, les Lions sont bien partis. Aujourd'hui, elles se reposent avant de jouer demain contre le Congo Brazzaville. Yacouba.
Les Sénégalaises qui recherchent leur premier trophée dans cette CAN féminine de handball, les Angolaises qui en ont jusqu'à 4 et qui ont battu malheureusement le Cameroun de Jules Valentin Ngoué. Jules, la position du Cameroun justement dans cette CAN féminine.
Oui, le Cameroun est deuxième, mais il ne faut pas oublier que c'est les deux finalistes de la dernière coupe qui se sont rencontrés, se retrouvent dans la poule B. Et le Cameroun avait éliminé le Sénégal en demi-finale à domicile et rencontrait l'Angola en finale. Donc on retrouve là deux grosses équipes et plus la RDC qui s'est très bien préparée et qui était quart de finaliste au Sénégal. Donc c'est une poule très relevée et je pense que il y a eu un tour de terrain et certainement les entraîneurs vont tirer des leçons pour nous présenter, en cas de nouvelle rencontre entre ces deux nations, quelque chose de très relevé.
On l'espère bien pour les Camerounaises, pour les Sénégalaises, pour les Angolaises et pour les Congolaises, bien sûr, et d'autres équipes qui participent à cette CAN féminine de handball. On n'en parle pas très souvent, en tout cas. Merci à vous, les gars. Élusé le disait, le programme de cette dernière journée de cette CAN va se poursuivre donc demain avec, entre autres, rencontres Tunisie-Cameroun ou encore RDC-Angola. Tous donc des chocs dans cette CAN féminine. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci donc à nos consultants Élisée Mkpatin, Jules Valentin, Guyamine Birouk et Amdine Si. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yakuba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.